Alors, depuis quelque temps, déjà, nous vous parlons de termes, de vision, de mission, de projet d'Église. Depuis quelque temps, déjà, nous vous parlons de la vision pour notre Église. L'Église que nous aimerions, comme nous aimerions la voir, dans un état futur. Une Église comme nous aimerions la voir dans 5 ou 10 ans. Et la vision, vous savez ce que c'est. C'est un terme connu, hein. C'est pas un terme propre à l'Église. C'est la description d'un état futur. Elle permet de définir où on veut aller, de communiquer clairement ce que nous désirons atteindre, de mobiliser, de motiver les gens pour suivre dans cette direction. Fixer et communiquer une vision permet ainsi de définir des objectifs communs, de coordonner les efforts de chacun pour tendre vers ce sens. Une vision pour qu'ensemble, en tant qu'Église, nous allions dans une même direction, et bien sûr cela dans la volonté du Seigneur et pour sa gloire. Notre vision, nous voulons dès à présent l'engager. Notre vision est une Église qui grandit. Une Église qui grandit en nombre et en maturité. Et nous croyons que la croissance et l'affermissement vont ensemble. Une Église, comme le terme a déjà été employé, une Église bouillante à l'intérieur et une Église qui rayonne à l'extérieur. En d'autres termes, une Église en croissance et rayonnante pour Christ. Et nous voulons en faire une priorité et orienter notre travail dans cette direction. Nous voulons inscrire cette vision de croissance aussi et de maturité dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Parce que nous croyons que dans la mission que le Seigneur nous a confiée se trouve la multiplication et l'affermissement. Une Église de disciples qui fait des disciples. Multiplication et affermissement. Et nous voulons ainsi participer au plan de Dieu pour notre ville. Adapter notre Église pour ceux qu'il a prévu d'ajouter. Les inviter, les accueillir, leur annoncer l'Évangile, en faire des disciples et les encourager dans le service. Vous avez déjà entendu cela, et vous l'entendrez encore. Nous voulons inscrire la vision dans la mission du Seigneur, et c'est Eric qui nous a soufflé ce terme, pour libérer la croissance. Et ça, je trouvais ça merveilleux. Et nous croyons que le Seigneur pourvoira. Mais nous avons besoin de nous inscrire ensemble dans ce mouvement, parce que c'est le Seigneur qui va former ce vase d'argile, ce vase nouveau qu'est l'Église dans laquelle nous sommes, afin qu'elle puisse être façonnée de ses mains à sa forme comme lui il veut pour sa gloire. Et je voudrais par cette prédication ce matin vous témoigner que nous voulons nous inscrire, pas dans notre intention à nous, mais dans l'intention de Dieu. Dans l'intention de Dieu pour cette agglomération, pour cette ville de Clermont-Ferrand, et nous vous invitons à vous y inscrire aussi, chacun et chacune. Je vous invite à lire ce matin un passage qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9. Et nous lirons des versets 9 à 13. Évangile de Matthieu, au chapitre 9. Et nous lirons des versets 9 à 13. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le passage que nous venons de lire se trouve dans l'évangile de Matthieu. Il se trouve également dans l'évangile de Marc au chapitre 2, à partir du verset 14, et il se trouve également dans l'évangile de Luc au chapitre 5, à partir du verset 27. Chacun nous rapporte la même histoire, mais il y a des petites subtilités ou des petits rajouts qui nous permettent de mieux comprendre le passage. Il se situe, ce passage, à un moment donné qu'on peut qualifier des premiers temps encore, les premiers temps du ministère de Jésus en Galilée. C'est à Capernaum, ville proche de la mer de Galilée, que Jésus était alors établi. Et juste avant notre passage à Capernaum, Jésus guérit un paralytique. La foule vit cela, et elle fut saisie de crainte, et elle glorifiait Dieu, au chapitre 9. D'un côté, nous avons une grande foule qui suit Jésus, et d'un autre côté, nous avons les responsables juifs qui, eux, ne sont pas très loin et qui saisissent toutes les occasions de le contester. Ce gars-là, ce Jésus, il est borderline. Il est toujours en dehors des clous. Faut le surveiller. Et Matthieu, collecteur d'impôts de métier, est un des 12 disciples que Jésus appela à le suivre. Et c'est précisément à ce moment de l'appel de Matthieu, appelé aussi dans d'autres évangiles Lévi, fils d'Alphée, qu'il est question dans ce passage. Alors, quel plan je vous propose ce matin? Je propose de regarder deux directions. Tout d'abord, regarder dans ce passage, au travers de ce passage, l'intention du Seigneur. Et ce mot, vous allez entendre souvent ce matin. L'intention du Seigneur. Et dans un deuxième temps, ce que cela m'inspire pour notre vision d'Église. Et je vous partagerai trois aspects. Jésus s'approcha donc de Matthieu. Matthieu, le collecteur d'impôts, qui était assis au lieu des péages. Alors Matthieu était péager ou publicain, selon les traductions, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Déjà, aujourd'hui, collecteur d'impôts, c'est... À l'époque, dans l'Empire romain, ce personnage-là était préposé à la perception des impôts, mais aussi au droit de passage sur les marchandises que l'on transportait d'un endroit à l'autre. Et il y avait des endroits comme ça où ils étaient présents, et c'est là qu'ils collectaient le droit de passage. Et Matthieu était justement dans son poste de travail à ce moment-là pour collecter les droits de passage pour les marchandises. Et les publicains étaient fort mal perçus par le peuple parce qu'ils n'admettaient pas qu'un des leurs fût en quelque sorte un agent des Romains, élève l'impôt pour un gouvernement envahisseur. Et ils étaient considérés comme des voleurs, des hommes de peu de scrupules. Et il faut bien dire que souvent ils l'étaient. Leur comportement et leur manque de valeur morale est même reconnu dans la Bible. Et Jésus lui-même le soulèvera à diverses occasions. Être traité de publicain à l'époque, ce n'est pas un signe de respect, loin de là. Au contraire. Mais Jésus vint vers ce Matthieu, ce collecteur d'impôts, et il lui dit « Suis-moi ». Il appelle personnellement à sa suite Matthieu. Il appellera d'ailleurs de même Pierre et Jean, un peu plus loin. Il appellera aussi Jacques et Jean, son frère, de la même manière. Jésus fait d'abord cette invitation personnelle à Matthieu, qui est un appel à la foi. Il dira ensuite à Matthieu, et d'ailleurs à ses disciples, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus appelle à sa suite, et il forme ceux qu'il appelle. Il les forme pour qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Il dira à Simon-Pierre, « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras dans tes filets. » Il les forme en vue d'un appel au ministère. Plus tard, Jésus enverra les 12 à l'apostolat, proprement parler, c'est-à-dire qu'il les enverra en mission, il va les envoyer en avant. En Matthieu 10, verset 5, il nous est dit que ce sont ces 12 que Jésus envoya. Et en quoi consiste cet envoi? Jésus lui-même dira à ses disciples, « Quand vous serez en route, prêchez, dites « Le royaume des cieux s'est approché ». Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur appelle à sa suite. Le Seigneur forme à sa suite. Le Seigneur envoie. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Et quelle va être la réponse de Matthieu donc ? Il nous est dit que cet homme se leva et le suivit. C'est pendant son travail, dans l'occupation de sa vie, ce qui fait son quotidien que Jésus vient s'adresser à Matthieu, cet homme infréquentable. Et d'ailleurs, quand les publicains étaient infréquentables, leur entourage l'était tout autant. Fréquenter un infréquentable, ça vous expose à être vous aussi infréquentable. C'est dans le cours de sa vie que Jésus s'adresse à Matthieu. Il fait son job, comme vous le faites. Il ne vient certainement pas, Jésus, dans un moment où Matthieu s'y attend le plus. Il vient dans un moment où il est dans le quotidien de sa vie. Et d'ailleurs, on peut se demander si dans notre vie, le Seigneur vient au moment où on s'y attend. Je crois que non. Le Seigneur ne vient jamais au moment où on s'y attend. Parce que peut-être au moment où on s'y attend, on n'est pas prêt à lui dire oui. Paradoxalement. Enfin bon. Matthieu arrête tout et le texte nous dit qu'il se lève et qu'il suit Jésus. Il laisse tout en plan, là. Cet appel est pour sa vie aujourd'hui, maintenant. Il est prêt à renoncer à sa vie pour suivre Jésus. C'est un appel à suivre Jésus et à dépendre de sa grâce. Le texte nous dit, un jour, Jésus était à table chez Matthieu, dans la version du semeur. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Alors, la Bible du semeur prend le parti d'ajouter au texte de Matthieu que Jésus était à table chez Matthieu. Ce que le texte de Matthieu ne dit pas. Le texte de Matthieu dit que Jésus était à table dans la maison. Néanmoins, le passage de Luc nous dit effectivement que Lévi, c'est-à-dire Matthieu, lui donna un grand festin dans sa maison. Marc le dit aussi. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. De fait, il est normal qu'on considère que dans Matthieu aussi, dans l'évangile de Matthieu aussi, Matthieu était dans sa propre maison. Matthieu donc, péagé lui-même, fait un grand festin pour le Seigneur dans sa maison. Et il avait donc invité plusieurs de ses amis, d'ailleurs de son entourage, qui n'est pas tellement différent de lui-même, ou en tout cas de ce qu'il était. Il est avec des amis ayant la même vocation que lui et étant méprisé comme lui. D'autres personnes dont la réputation n'était pas meilleure et qui sont spécialement désignées dans les évangiles comme des pécheurs. Terme qui est traduit d'ailleurs dans vos bibles comme « gens de mauvaise vie ». Des gens avec lesquels les juifs ne devaient surtout pas manger. Pas mieux que des païens. Et ce mot se trouve d'ailleurs souvent uni à celui de péager, parce que ces derniers avaient généralement le même caractère moral que des pécheurs. Des péagés, c'est des pécheurs. Eh bien, Matthieu invite certainement toutes ces personnes à la table avec le Seigneur. Lui qui, au bénéfice de l'appel du Seigneur, à son tour, fait un grand festin pour le Seigneur, et afin que d'autres puissent être aussi au bénéfice de Jésus. Matthieu fit ce repas en l'honneur du Jésus, et beaucoup vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les publicains et toutes sortes de gens de mauvaise vie se trouvent donc là, ce jour-là, au contact de Jésus. C'est le cercle de Matthieu. Qu'est-ce que va faire Jésus au contact de ces personnes ? Quelle va être son attitude? Les événements qui suivent vont nous révéler la disposition du Seigneur envers les publicains et envers ces gens considérés comme des païens. Et finalement, sans l'intervention des pharisiens qui va suivre, sans l'intervention des pharisiens qui vont contester Jésus, nous n'aurions pas reçu d'une manière aussi forte l'intention du Seigneur. Les pharisiens, paradoxalement, vont nous révéler, au travers de leur contestation, ce que Jésus veut ce jour-là. Il nous est dit au verset 11 que les pharisiens virent que Jésus était à table avec des gens de mauvaise vie et avec ses disciples. Et ils viennent dire à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Les pharisiens, les responsables juifs, ne sont jamais loin du Seigneur. Ils le surveillent, ils l'épient, ils l'interpellent, le contestent dès que l'occasion se présente. Et cette contestation va même grandir pour aller jusqu'à les arrestations à la fin. Il n'était probablement pas de la fête, mais il veillait. L'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Les juifs stricts ne devaient pas manger avec des païens. Ils les considéraient, ses invités, de la même nature, étant sur le même plan qu'eux, des païens. Alors Jésus se retrouve à table et il partage le repas avec des publicains et des pécheurs. Il n'y a rien de pire. Ce n'est pas possible de laisser passer ça. Et les paroles de Jésus vont sonner comme en opposition totale à l'interpellation des pharisiens. Ce que Jésus va révéler dans sa parole, c'est le besoin de l'humanité. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus donne une réponse à la fois ironique et profonde. Profonde parce qu'il reconnaît aux pharisiens que ces gens avec qui ils mangent sont en mauvaise santé, sont malades, sont des pécheurs. Mais c'est avec une certaine ironie qu'il le dit. Vous êtes, vous, des bien portants. Vous n'avez pas besoin de médecin. Eux sont des malades. Eh bien, ce sont eux qui ont besoin d'un médecin. En d'autres termes, on pourrait dire, si ces personnes sont des pécheurs, comme vous le prétendez, mais c'est bien elles qui ont vraiment besoin d'un sauveur. Si Jésus leur concède cela, c'est pour montrer le besoin qu'eux-mêmes viennent de révéler, mais qu'ils ne veulent pas reconnaître pour eux-mêmes. Les pharisiens se trouvent, eux, bien portants et dans la justice. La suite va nous montrer la sévère désapprobation du Seigneur aux paroles des pharisiens. « Allez, leur dit-il, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Ce que Jésus va révéler, au-delà du besoin même de ses interlocuteurs, c'est la disposition du cœur des pharisiens. Jésus reprend les paroles que l'on trouve dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6, verset 6. « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus que des holocaustes. » Cette parole, c'est une parole centrale de l'Écriture. Elle est présente dans l'Ancien Testament. Jésus reprend ses paroles à ce moment-là face aux pharisiens. Et on retrouvera ces paroles citées en Matthieu 12, verset 7, par Jésus encore, devant les pharisiens encore, qui reprochaient à Jésus de violer les sabbats. Cette parole est centrale, cette parole est une révélation. Elle est la révélation de la volonté de Dieu pour celui qui le suit. Le Seigneur prend plaisir dans ceux qui font preuve d'amour envers les autres et non dans les sacrifices. L'amour est mis en parallèle avec le sacrifice parce qu'il est lui-même le vrai sacrifice, celui qui est agréable à Dieu. Sans ce sacrifice, sans cet amour véritable, le culte extérieur à Dieu est comme une offrande sans parfum, un cœur sec, dur, dans lequel on croit fonder notre propre justice, mais dans lequel nous ne sommes en aucune manière en Dieu. Finalement, cela montre que toutes nos formes, parfois de rites, de cérémonies, sont sans valeur devant Dieu si nous n'avons pas un cœur d'amour qui fait preuve de miséricorde, un cœur selon Dieu. Cette parole met également en évidence le cœur véritable du Seigneur, la miséricorde de Jésus, qui est là, qui prend vie, qui est réel envers les pécheurs. Jésus appliquera dans son ministère ce qui est agréable à Dieu. Et justement, sa vie sera le témoignage de preuve d'amour envers les hommes, c'est-à-dire de ce cœur de miséricorde envers les hommes. En opposant ces paroles aux pharisiens, Jésus met en avant ce qui le caractérise aussi lui-même. l'amour de Dieu. L'amour de Dieu envers l'humanité. Jésus dira, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si Jésus n'avait pas fait cela, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous, pharisiens, bien pourtant, juste selon vos yeux, allez et apprenez ce qui est vraiment essentiel. Moi, je viens appeler des pécheurs qui ont besoin de la miséricorde du Père. Jésus leur révèle ce qui manque, qui fait tant défaut aux pharisiens qui se croyaient justes, le vrai besoin de Dieu pour leur vie. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler des justes mais des pécheurs, quand il parle des justes qui n'ont pas besoin de conversion, par exemple en Luc 15, verset 7, il ne veut pas dire que certains sont véritablement justes et qui n'ont pas besoin de se convertir. Il ne fait que traduire la pensée des juifs religieux qui se considèrent eux-mêmes comme justes et ne se sentent pas concernés par ces appels. L'intention de Jésus, il me semble, est de dire aux pharisiens qui se considèrent comme justes plutôt que comme pécheurs que son appel à la rédemption s'adresse justement à ceux qui sont conscients de leur état de péché, ceux qui sont prêts à écouter. Le problème des pharisiens qui contestent Jésus et qui s'excluent eux-mêmes en refusant de prendre conscience de leur état de péché. Alors qu'en vérité, tout homme, y compris ces fameux pharisiens, sont des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole. Jésus ici va nous donner toute la signification de ce repas. De ce repas qu'il prend au milieu de ses publicains et de ses pécheurs. Sa mission est de s'occuper des pécheurs. C'est à des pécheurs de cette sorte que Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume, porteuse de salut. Moi-même, à la place des pharisiens, j'aurais été comme eux. J'aurais été certainement comme eux. Jésus, à aucun moment, ne nie, il ne niera pas qu'ils sont des pécheurs. Il ne sous-estime pas leur faute. Il n'est pas en train de jeter un voile sur la faute et sur les péchés de ceux avec qui il mange. En aucune manière, il ne dit ça. Il souligne, au contraire, leur besoin. Il le met en évidence. Il le met au grand jour. Et il y consacre ses soins particuliers. L'intention de Dieu et de rechercher ceux qui sont perdus. C'est le cas dans l'histoire de la brebis égarée. C'est le cas encore dans la pièce de monnaie perdue, en Luc 15. Dans chacune de ces deux paraboles intervient deux choses. L'intention et l'initiative de Dieu. C'est l'intention et l'initiative de Dieu. Ces deux paraboles ne mettent pas en avant des personnes, mais l'amour et la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Il en est de même dans notre passage. Ce passage nous révèle l'intention de Dieu envers les hommes et il marque de son empreinte un aspect important qui est l'amour et la miséricorde envers ceux qui sont perdus. Sans amour, sans preuve d'amour, sans miséricorde, il n'est pas possible de rentrer dans l'intention de Dieu. C'est pas possible. Si nous ne faisons pas preuve d'amour et de miséricorde, comment pourrons-nous aller vers ceux qui sont dans le besoin ? Alors ce matin, je voudrais retirer trois choses de ce passage, en lien avec notre vision d'Église. Alors nous pourrions retirer de ce passage des aspects, entre guillemets, plus théologiques. Mais ce n'est pas vers cela que je veux aller ce matin. Je voudrais retirer trois choses qui m'interpellent au moment de parler de vision d'Église, de mouvement, comme ça. La première, c'est cette mission d'appeler des pécheurs. Et nous l'avons vu tout au long de ce passage, Jésus est venu appeler dans le monde des pécheurs. L'intention et l'initiative de Dieu est de rechercher ceux qui sont perdus parce qu'ils sont tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et quand Jésus dit à ses disciples « Allez et faites de toutes les nations des disciples », Il révèle l'intention de Dieu pour l'humanité. Aller chercher ceux qui sont perdus. Nous voulons en faire notre priorité, orienter notre travail dans cette direction, parce que nous voulons inscrire notre vision, la vision de l'Église, dans ce mouvement d'accueillir, d'inviter, d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples et d'encourager dans le service. En quelque sorte, nous voulons nous inscrire dans l'intention de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Le Seigneur nous invite à nous approprier son intention, à la faire nôtre, mais en aucune manière c'est la nôtre. Si vous voyez que c'est notre intention, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être dans notre discours ou dans la manière de la recevoir. Nous voulons le faire plus particulièrement pour cette agglomération et cette ville de Clermont-Ferrand. Notre Église a vocation à faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui sont dans le besoin. Et je crois vraiment que plus nous comprenons cela, et plus encore nous nous inscrivons dans l'intention de Dieu. Le Seigneur ouvrira pour nous les portes, si nous le voulons. Mais ce n'est pas si évident que ça. Est-ce que nous nous sommes déjà placés en tant qu'Église en nous disant « Nous voulons nous placer dans l'intention de Dieu pour cette ville », c'est-à-dire que des pécheurs viennent à Jésus. Mais vous allez me dire « C'est évident, bah, évidemment, tu nous prends pour des ânes ». Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé cette question? Mais vraiment sincèrement, devant le Seigneur, en Église. Mais c'est ce que nous voulons faire. Sommes-nous prêts ensemble, je veux dire par là en Église, c'est-à-dire le corps de Christ, à nous inscrire dans l'intention de Dieu pour cette ville? Est-ce que nous voulons nous l'approprier ensemble et avec un même corps en mouvement, aller vers cela? La deuxième chose que je voudrais souligner ce matin, elle est plus particulière. Elle est individuelle. Elle est personnelle. Matthieu a été appelé à suivre Jésus et cet appel lui a été personnel. C'est une des premières choses que fait Matthieu est de se mettre en mouvement à la suite du Seigneur. Vous l'avez vu, j'ai essayé de vous le montrer. Il le fait ici en ouvrant sa maison, en invitant le Seigneur. Et vous connaissez aussi sa vie en tant que disciple et apôtre de Jésus-Christ. Et plusieurs de son entourage se trouvent au bénéfice des paroles du Seigneur. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Et je crois que ce mouvement est important. Il est important de le considérer. Ce que j'ai reçu, je le donne à mon tour, afin que d'autres soient au bénéfice de la même grâce. Sommes-nous prêts individuellement à nous inscrire dans ce mouvement pour Dieu? Notre intention met en lumière le chemin que nous prendrons. Notre intention mettra en lumière le chemin que nous prendrons. Plus encore, notre intention révélera avec quelle mesure nous mesurons. Est-ce que je suis dans l'intention de Dieu pour cette ville de Clermont-Ferrand? Ou est-ce que je suis dans ma propre intention, pour moi-même? Et si je vous dis ces paroles, c'est parce qu'elles sonnent d'abord pour moi comme un désaveu. Bien souvent dans ma vie, je vis mes propres intentions. Et je regarde d'abord à mes propres initiatives. Je regarde à moi. Et après, s'il y a du temps, ben on verra. Et Seigneur m'interpelle, il me dit, mais ce que tu as reçu gratuitement, donne-le toi aussi gratuitement. C'est bien, tu es assis, bien tranquillement, mais ce que je t'ai donné, je t'invite aussi à le partager. Et Matthieu, nous ne savons pas dans quel état il était à ce moment-là, il a suivi le Seigneur, mais il était tout jeune à la suite du Seigneur. La première chose qu'il a fait, il a ouvert sa maison, il n'a pas regardé à ses préjugés, il a invité tous ses bandits de collègues. Devant le Seigneur, il n'a pas eu honte. Et Seigneur, il est venu pour eux. Il ne regardait pas à l'attitude de Matthieu, parce que le Seigneur est venu sauver ceux qui en avaient besoin. Et moi, je veux rentrer dans cette attention-là. Je suis faible, et vous ne pouvez pas l'imaginer. Et quand je le dis, je mesure tout ce que je suis en train de dire. Mais Seigneur, je veux dire au Seigneur, Seigneur, je veux rentrer dans ton intention pour cette ville. Je veux que moi aussi, ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Parce que tu m'invites à le faire. Et parce que quand je vois ce que le Seigneur a accompli pour ces gens, je me dis, je veux le voir moi aussi pour les gens de cette ville, pour les gens qui m'entourent, pour les gens de ma famille. La troisième chose que je vois dans ce passage, au moment de regarder la vision de l'Église, ce que nous aimerions être dans 5 ou 10 ans, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se défaire, pas facilement. C'est l'opposition. L'opposition. Croire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est se voiler la face. Il y en a déjà dans notre propre vie, dans nos propres choix. Il y en a aussi devant nous, devant l'Église. Il y a vrai danger d'opposition. Et souvent, cette opposition ne vient pas de l'extérieur. L'opposition n'est pas venue des gens de mauvaise vie. En tout cas, dans le texte, il ne nous est pas dit qu'ils ont refusé de manger avec Jésus. Elle n'est pas venue des publicains. Elle n'est pas venue du peuple. Ceux qui s'opposent à Jésus, ce sont des pharisiens. Les plus stricts mouvements religieux juifs baignés dans la loi mosaïque. Et aussi les scribes. Souvent, les scribes, ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas loin, souvent. Ceux qui enseignent la loi mosaïque. Ceux qui devraient être le plus à même de considérer leur propre péché et le besoin de Dieu pour l'homme, ce sont ceux qui s'opposent à Jésus et aux besoins de miséricorde. Alors quand je dis ça, je me dis que finalement, bien souvent, je ne suis pas si loin d'eux que ça. Et je crois qu'au moment où on se met en mouvement pour Dieu, et c'est le cas dans nos vies personnelles, lorsqu'on fait des choix pour le Seigneur, qui nous engagent, pas des choix qui nous disent « oui, je viendrai le dimanche à l'église ». Non, des choix qui nous engagent pour le Seigneur, l'opposition n'est pas loin. À chaque fois, l'opposition n'est pas loin. Et je crois qu'au moment où nous nous mettons particulièrement en mouvement, donc, il y a un vrai danger de repousser ceux qui ont besoin de Dieu. Vous allez me dire « mais c'est pas possible, mais non, on ne veut pas ça ». Si, le danger existe. Le danger existe pour nous-mêmes de repousser ceux qui ont besoin du Seigneur. Mais comme le Seigneur nous l'a dit, nous ne sommes pas là pour juger les cœurs, pour dire si une personne est juste ou pas, mais pour qu'elle puisse être au bénéfice de Jésus-Christ. Et c'est là la différence. C'est que parfois on fait l'amalgame entre des personnes que nous aimerions voir justes alors qu'elles ont besoin justement d'abord de connaître Jésus-Christ. Comment est-il possible de demander à quelqu'un qui n'est pas juste d'être plus juste que nous-mêmes où on n'est même pas capable de faire la différence entre un juste et un injuste? Il y a un vrai danger de repousser ceux qui sont dans le besoin de Dieu. Et ce danger, il peut être devant nous. Je ne dis pas qu'il l'est, mais il peut l'être. Et je crois même que nous pouvons ne pas nous en rendre compte. Parce que nous croyons bien faire, finalement. Il est hors de question que viennent à l'église des gens qui sont borderline. Hein. Alors évidemment, il y a 30, 40 ans, lorsque... Enfin moi, il y a 30 ans plutôt, lorsque j'étais jeune... Quand même. Quand j'étais jeune, les gens qui venaient à l'église... C'était des personnes qui étaient déjà chrétiennes, souvent. C'est-à-dire, rentrer dans l'église, c'est-à-dire, quand je dis église, c'est pas la salle, hein, mais dans le corps de Christ, enfin si, c'était la salle, rentrer dans la salle, que des gens qui avaient déjà fait une démarche de foi dans le Seigneur, et qui venaient, et qui avaient déjà, voilà, qui avaient pris la décision de suivre et d'écouter le Seigneur. Et évidemment, ils étaient dans une autre démarche. Aujourd'hui, dans le temps dans lequel on vit, tout le monde peut rentrer dans un lieu comme le nôtre. Mais est-ce que pour autant, on doit les mettre dehors? Comment pouvons-nous faire si nous ne sommes pas capables de les accueillir afin qu'ils puissent écouter, afin qu'ils puissent entendre, afin que le Seigneur puisse venir les toucher, afin que le Saint-Esprit agisse dans leur cœur? En faisant cela, on peut s'opposer au Saint-Esprit. Nous pouvons donc freiner l'action de Dieu. Et nous pouvons freiner l'action de Dieu pour cette ville, pour notre Église. Simplement parce que, des fois, il y a des choses qui nous empêchent de considérer la personne que nous avons devant nous. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est parce que nous avons peur. C'est d'abord parce que nous avons peur. Parce que les gens qui sont en face de nous nous déstabilisent totalement. Et nous avons peur qu'ils nous déstabilisent dans notre foi. Nus avons peur. C'est un des plus grands pièges des chrétiens, c'est la crainte et la peur. Nous avons besoin de toute l'assistance, de toute la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il nous donne un cœur de miséricorde, afin de voir chacun et chacune selon le regard du Seigneur, et non pas selon notre propre regard. Nous avons besoin de toute l'assistance du Saint-Esprit, parce que si vous regardez les actes des apôtres, vous verrez que c'est les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir. L'Église va croître, elle va grandir, elle va se développer sous l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette assistance et de cette puissance-là dans nos vies et dans l'Église. Alors, au moment de conclure ce matin, ma prière, c'est que le Seigneur Jésus nous éclaire, qu'il nous convainc, qu'il nous remplisse de son intention pour cette ville, qu'il nous donne de pouvoir rentrer dans son intention à lui pour cette ville, qu'il nous équipe de cela, qu'il nous préserve de tout mal et que nous puissions ensemble nous mettre à sa suite pour sa gloire. Amen.